Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Agnès Michel.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes associée chez Ixos Formation et vous avez publié le petit manuel à l'usage de ceux qui paient des impôts et voudraient bien savoir pourquoi chez Rue de l'Échiquier. Peut-être ceux qui vont en payer davantage bientôt. C'est jamais.
L'important, c'est de payer sa juste part.
D'accord. Leonidas Kalogeropoulos, bonjour.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project, et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République, une place de marché qui offre des solutions concrètes d'entrepreneurs aux enjeux du pays. Denis Père, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président de Nature and People First. Vous êtes l'auteur du contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. J'ai pensé que le sujet sur le libre-échange était taillé sur mesure pour vous. Merci. Car ce sont des questions qui sont assez centrales dans les thèses que vous développez. Mm-hmm. Alors voilà l'idée de Bruno Le Maire. Il l'a écrite en page 68 de son livre La Voix Française. Il le répète dans les colonnes de Sud-Ouest hier. Il faut monter le salaire net. Il faut que le travail paie davantage. Donc il veut basculer 5 points de cotisation du salaire, du travail, vers la TVA pour faire la TVA sociale, tout simplement. Cette interview intervient au moment où également Fipeco.fr sort avec François Eckhall une note observant la structure de la fiscalité et des prélèvements obligatoires français et constatant que nous taxons davantage que les autres le capital, nous taxons nettement plus que les autres le travail, les fameuses cotisations sociales qui sont des prélèvements obligatoires, mais nous ne sommes pas du tout au record du monde en matière de taxation sur la consommation. Nous sommes à la 25e place des pays européens, nous dit François Eckhall, sous-entendu, il y aurait potentiellement de la place avec la TVA pour agir. Est-ce que vous êtes partant ?
Oui.
Leonidas Kalogeropoulos.
Oui, et depuis longtemps.
Ça a des défauts, hein ?
Pardonnez-moi.
Ça a des défauts, la TVA sociale.
Non, mais il y a d'abord le modèle parfait. Je pense que c'est une quête désespérée. Donc, tout a des défauts. En revanche, on a 100 milliards de déficit commercial. Et ces 100 milliards de déficit commercial, de produits importés, ne payent rien à notre modèle social. Donc, on rajoute un peu de TVA, ne serait-ce que 2 points de TVA supplémentaires sur 100 milliards, vous avez 20 milliards qui viennent en contribution et qui peuvent, en contribution à nos modèles sociaux et qui peuvent venir en soustraction des charges qui pèsent sur le travail.
Il ne faut jamais oublier que c'est le consommateur qui paye à la fin.
Oui, mais vous savez, on a cette question qui est récurrente. Est-ce que le consommateur est juste un consommateur dans l'absolu, j'allais dire, shooté aux allocations? A priori, le consommateur, il est consommateur parce qu'il a un travail et parce qu'il a un revenu de son travail. Et si le revenu de son travail est systématiquement amputé de ce que coûte notre modèle social qui est ambitieux, eh bien, ce consommateur, il a moins de pouvoir d'achat. On lui redonnait du pouvoir d'achat avec, un revenu de son travail qui n'est pas autant amputé qu'il l'est sur le financement de notre modèle social. Et faire porter une partie à des produits qui sont importés, surtout dans notre économie qui est à ce point dépendante de ces importations, ça me semble être un rééquilibrage qui est nécessaire. D'ailleurs, ça fait longtemps que l'on en parle. Le constat que fait aujourd'hui Bruno Le Maire, ça fait une vingtaine d'années que ce constat est fait. Effectivement, je pense qu'il est temps de le remettre d'actualité. Et puis, il y a une autre chose qui me semble fondamentale, c'est que cette sacro-sainte idée que le consommateur serait l'aiguillon de tout, véritablement, il faut lui redonner la complétude de ce qu'il est, ce consommateur. Il est effectivement quelqu'un qui travaille dans une entreprise et ce phénomène de travail payé par l'entreprise ne peut pas être le socle sur lequel la totalité de notre modèle repose, sinon le déséquilibre. Et c'est, je pense, une clé d'explication des déséquilibres de notre économie.
Mais dans la mesure où on prendrait ce type d'arbitrage, ça veut dire qu'on prend les éléments positifs, mais on intègre aussi les éléments négatifs. Si vous faites la TVA sociale et que vous basculez 60 milliards d'euros de cotisations, certes, vous aurez des salaires nets qui vont augmenter, vous allez avoir un coût du travail qui va baisser, vous pouvez considérer que les touristes qui passent sur le sol français, participe au financement du système, puisqu'évidemment, il paye la TVA. Vous avez un effet compétitivité-prix, car finalement, ça va s'apparenter à une dévaluation monétaire.
Absolument.
Où le produit qui est exporté, eh bien, lui, il est gagnant, alors que le produit qui est importé est perdant. Mais vous assumez le fait de faire de l'inflation.
Oui.
Et vous assumez le fait de toucher à un prélèvement, enfin, à une taxe, en l'occurrence, qui est jugée, et ça se défend, injuste dans la mesure où elle est la même payée par tous.
Écoutez, elle est pas juste.
Mais on est obligé de faire...
Il y a quand même une chose, c'est qu'on ne la paye que si on consomme, on la paye sur sa consommation, et donc effectivement, il y a des arbitrages qui se font. Mais encore une fois, le système, dans un système circulaire de l'économie, toucher un facteur, c'est forcément impacter les autres. Donc effectivement, les arbitrages, me semble-t-il, sont favorables à ce modèle-là.
Parce que sinon, il y a la CSG.
Alors...
Ah, mais la CSG, vous n'aurez pas l'effet salaire net.
Non. Voilà.
Donc, vous aurez l'effet justice parce que tous les revenus participent. Et vous n'aurez jamais des 100% gagnants dans la situation. Voilà.
Jamais.
À un moment, il faut faire un choix. Bon, pour l'instant, aucun choix n'a été fait. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy, en 2007, qui avait brandi cette idée. Elle a été défendue par des économistes que vous connaissez bien ici, notamment Philippe Aguillon, en 2012, je crois. Il ne s'est rien passé. Monsieur Denis Père, qui verse des salaires,
ouais,
qui en a versé beaucoup dans sa vie.
Beaucoup dans ma vie, absolument.
Qui sait ce que c'est que le coût du travail?
Complètement. Moi, je suis habituellement pas favorable au bonneto fiscal. Hein, en l'occurrence,
alors, c'est un peu
ça,
du bonneto.
Hein, c'est vraiment le
c'est
bonneto,
une facture c'est... que vous déplacez.
Voilà. Et c'est mécanique, c'est facile. Bon. C'est facile sur le papier. J'y suis pas favorable. Néanmoins, ce que j'aime bien quand même, c'est ce que vient de dire Leonidas. C'est-à-dire que c'est une manière de faire supporter le coût de la protection sociale à l'ensemble finalement de l'économie. C'est le modèle danois en fait. Hein. C'est le Danemark a des prélèvements très très élevés, hein, très proches des nôtres. Hein. On se bat régulièrement en haut du podium. Des
on est, oui, effectivement, à peu
les
près.
Les plus élevés, 45-46 points de PIB. Et le Danemark a une TVA qui est à 25%. Hein. Donc le Danemark, depuis très longtemps, effectivement, a choisi de faire porter effectivement la protection sociale beaucoup plus sur la consommation que sur le travail, et donc a réussi à conserver une industrie qui est assez prospère. Hein. Le Danemark est un pays qui reste très industrialisé. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Là où je suis plus critique, c'est effectivement les conséquences. C'est-à-dire qu'on cherche à augmenter le reste à vivre, et on reprend d'une main ce qu'on donne de l'autre. Enfin, c'est le risque, en tout cas. Hein. Donc moi, je le vois comme une
solution. A priori, le salarié devrait quand même être parmi les gagnants à l'arrivée.
Il faut espérer, mais effectivement, tout le monde la paye, la TVA, 25% en l'occurrence. Hein. Donc il faudra peut-être faire un effort à ce moment-là sur les produits de première nécessité pour que les plus modestes, effectivement, soient peut-être les moins impactés. Et moi, je le vois plus comme une mesure qu'on peut étaler dans la durée. Et je pense que la seule solution pour augmenter le reste à vivre, le salaire net, c'est de travailler sur l'efficacité de la dépense publique. C'est le sujet numéro un, c'est le sujet tabou, dont personne ne parle jamais, mais auquel il va falloir qu'on vienne quand même un jour. On a effectivement aujourd'hui une dépense publique qui est record du monde, qui est à 56 points de PIB, de fait des prélèvements aussi qui sont des records mondiaux, une inefficacité globale maintenant qui apparaît aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant, les Français sont demandeurs en plus de cette réforme, parce que se rendent compte que plus on dépense, plus on a de bureaucratie, plus on a d'inefficacité, le système de santé s'effondre, le système éducatif s'effondre, on rajoute de l'argent et c'est pas pour ça qu'il s'améliore. Donc il y a même une demande, ça devient populaire aujourd'hui.
Ça va devenir populaire.
C'est en train de devenir populaire.
Oui, c'est exact.
C'est un sujet qui va sortir de BFM Business pour
c'est
devenir
ça.
Un sujet d'intérêt
c'est
général.
Plus, c'est plus un sujet de financement de la dette. Ça devient un sujet populaire. Donc c'est intéressant.
Il y a des revues de dépenses.
Y compris oui, Nicolas, chez les fonctionnaires. Y compris chez les fonctionnaires eux-mêmes, qui sont les premières victimes aujourd'hui de cette dépense publique incontrôlée. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On renforce les services centraux, on renforce les back-office, les petits chefs qui contrôlent, qui émettent des CERFA, qui demandent des reportings qu'on ne lit pas.
On va supprimer
etc.
les CERFA. Vous
et donc,
avez vu ça
oui,
en 2027.
Non, mais ça devient populaire. Parce que Bruno Le Maire, effectivement, propose de supprimer les CERFA. Donc, on voit bien que le sujet commence à rentrer dans le débat public comme un sujet populaire.
Ben voilà,
donc,
je pense
que le vrai sujet, c'est ça. Sauf que ça, effectivement, c'est un chantier de longue haleine.
C'est pas le même chantier.
Qui est compliqué.
Même, hein.
Voilà.
C'est pas le même
compliqué,
chantier.
Bon. C'est des problèmes de management, d'organisation, etc. Donc, c'est quand même très compliqué, ça prend du temps.
Bon. Il y a 10 revues de dépenses publiques actuellement lancées. Bruno Le Maire le rappelle. Il y aura une loi de simplification avant l'été. Bon. On va bien voir si on arrive un jour ou l'autre à lancer l'histoire. Agnès, par rapport à ce qui s'est dit depuis le début de l'émission, votre réaction par rapport à ce que nous dit Bruno Le Maire, 5 points de cotisation basculés vers l'impôt, et je pense qu'il pense plus à la TVA qu'à la CSG.
Alors, petit rappel, comme toujours, allez-y. Quand on parle des prélèvements obligatoires, on est bien sur des systèmes d'assurance qui, dans un certain nombre de pays, sont payés sur le salaire net qui est touché, qui est peut-être plus élevé, effectivement, dans un certain nombre de pays, mais sur lequel, ensuite, chacun individuellement doit défalquer ses propres assurances. Donc, il faut toujours rééquilibrer ça aussi.
On est d'accord.
Sur la dépense publique, j'aurais quand même une petite nuance aussi, c'est qu'il y a dépenses et dépenses. Vous parliez de l'hôpital. Le problème de l'hôpital, c'est pas les dépenses de santé en elles-mêmes. C'est la facturation à l'acte qui est complètement délétère pour quelque chose qui n'est pas censé être rentable et encore moins profitable, mais bien soigner les gens et à renforcer la place de tout l'administratif au détriment des soignants. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'on donne beaucoup d'argent à l'hôpital, on en donne plutôt moins, mais on en donne pas aux bonnes personnes.
Tout à fait.
Et mais puis, on n'a pas une dépense hospitalière délirante.
C'est ce que j'ai dit, mais j'ai peut-être pas été clair. On a eu aussi...
Mais revenons sur la TVA sociale.
Mais parce que, en fait, ce qui se passe sur la TVA sociale, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, vous avez... ce qui m'inquiète, c'est que ce soit conçu comme ça. En tant que bonne écolo, j'ai toujours été pour une TVA écolo et sociale sur les produits qui arrivent, effectivement, sans avoir... en étant beaucoup moins cher, puisque...
n'ayant pas les mêmes contraintes.
Dans des situations abominables en termes sociaux et conséquences environnementales qu'on finit par payer par ricochet par ailleurs. Mais ce qui m'inquiète là, c'est juste de dire, de voir sur les deux mandats de Macron diminuer tout ce qui était de l'ordre du paritaire.
C'est un autre sujet.
Oui, mais.
C'est un autre sujet, Agnès, là. Là, le paritarisme n'est pas vraiment en cause.
Sauf que, à un moment donné, si vous passez vers des ressources de l'État...
Ça revient à nationaliser...
De fait.
Bon,
Si on nationalise
quelque chose qui repose sur de la cotisation sociale, on peut considérer qu'il y a une forme de nationalisation qui ne dit pas son nom pour ce qui est de la gouvernance.
Oui.
Bon, c'est jamais très tellement assumé par le pouvoir.
Ça peut être problématique, parce qu'il est très facile, une fois qu'on a nationalisé, de dire, là, on est un petit peu en difficulté, donc on va aller piocher là-dedans. D'ailleurs, c'est pas du tout une illusion de ma part, étant donné ce qui s'est passé sur les retraites et ce qui est en train de se préparer sur le chômage. Donc il faut avoir ça en ligne de mire. D'accord. Effectivement, il y a probablement beaucoup de choses à faire sur la TVA, et justement pour renforcer les productions locales, avec une TVA qui serait effectivement sur les produits importés, beaucoup plus élevé. C'est possible en négociant avec l'Union européenne. C'est aussi un vieux sujet et je pense que ça sera un effet de levier beaucoup plus important.
Là, il y a quand même l'idée du salaire net qui doit augmenter. Hein. C'est vraiment ça qui est le moteur de Bruno
Le Maire. Pas seulement. Il n'y a pas uniquement Léonidas, la question du salaire net. Il y a aussi la capacité, et je pense que c'est une obsession légitime de Bruno Le Maire, de réussir notre réindustrialisation. Et le fait d'avoir...
En abaissant le coût du travail.
En abaissant le coût du travail.
Il n'est déjà pas très élevé en France, le coût du travail. Le prix du travail.
Enfin, je n'ai pas cette perception. Non, les salaires ne sont pas très élevés, mais le coût du salaire est extrêmement élevé. Et je pense qu'il pèse.
La différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est justement là. Et le salaire brut en France, il n'est pas dramatiquement bas, mais effectivement, le net dans la poche du salarié à la fin du mois, il est sérieusement amputé.
Oui, mais il y a des dépenses que le salarié français n'a pas.
Je sais bien que ce sont des prélèvements. Léonidas, c'est vrai que c'est des prélèvements.
Non, mais si on se compare aux États-Unis, on n'a pas payé l'éducation des enfants.
Non, mais on se compare aux États-Unis, là.
Non, non, non.
Moi, j'ai eu des salariés dans tous les pays d'Europe. En Europe, à 2000 euros net par mois, en France, à 2000 euros net par mois, le coût pour l'entreprise est 3 500 euros.
Oui.
Aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, il est 500 à 1000 euros moins cher pour des prestations équivalentes. Des modèles sociaux qui sont strictement comparables. On ne parle pas des États-Unis, hein. On se compare à des voisins européens. Le coût global du salarié français brut, il est nettement plus élevé que chez nos voisins. Faites l'étude sérieusement. Attendez, avec la même prestation, l'Allemagne n'est pas un enfer social, les Pays-Bas non plus, l'Espagne non plus. Arrêtons cette fable.
Mais c'est ce que vous sous-entendez, madame. Je compare des choses.
Je ne compare pas aux États-Unis.
Non, mais
2000 euros net, 3 500. Le surcoût est colossal. Faites des études sérieuses sur ce sujet, madame, avant de venir sur des plateaux raconter des histoires qui sont des contre-vérités. Mais oui, madame, sérieusement.
Bon.
Non, mais on profère comme ça des. J'ai eu des salariés dans tous les pays d'Europe.
Non, mais
j'ai
le coût du travail en France reste important. Il y a eu des progrès.
Il est colossal.
En tout cas, là, ce serait une mesure radicale de modification du coût du travail. 5 points de cotisation oui, mais qui basculeraient d'un coup d'un seul.
Je pense que ça a un mérite, c'est de remettre une capacité à faire tenir des industries en France, alors que vous nous avons assisté depuis 20 ans à leur disparition systématique. Et comme c'est à l'évidence le projet phare de Bruno Le Maire, à la fois de réussir cette réindustrialisation pour aller vers le plein emploi, qui est la clé, c'est un des ingrédients absolument essentiels. Et dans cette vision globale, je pense que cette étape est nécessaire. Ce qui me gêne plus dans la démonstration de Bruno Le Maire, c'est dans quel calendrier il inscrit.
Il n'y a pas de calendrier.
Non, il n'y a pas de calendrier. Il a l'air de dire que c'est une mesure qui nécessite un passage en référendum. Or, je ne suis pas totalement certain que les conditions soient réunies pour que ce se fasse rapidement, et je pense que ça fait partie des mesures qui devraient se faire rapidement, principalement pour que l'on puisse réussir cette réindustrialisation, parce qu'elle est à l'œuvre, mais elle se heurte quand même à des problèmes de compétitivité dès lors que l'on veut exporter nos produits surchargés socialement.
Quand on regarde les chiffres précisément, les Unidas, ce qu'on appelle la réindustrialisation, c'est assez embryonnaire en réalité.
Oui, mais pardon,
c'est embryonnaire. Quand on voit 2-3 grands projets de méga-factory.
Non, mais c'est embryonnaire dans la bonne direction.
Oui,
c'est embryonnaire dans la bonne direction. Enfin, il faut bien qu'à un moment donné, le cap soit tourné dans la bonne direction.
Il y a un moment, pas du jour au lendemain. Il y a un moment, on ne fait que transférer une facture d'un point A à un point B.
Alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Denis Père sur la nécessité d'une réforme de l'État. Et si on fait la TVA sociale à la place de la réforme de l'État, c'est bien entendu une fausse bonne idée. Mais faire les deux, oui, ça c'est effectivement un cap utile.
Dans la même interview d'ailleurs, Agnès, Bruno Le Maire, il a dit qu'il voulait nationaliser l'UNEDIC. Carrément, c'est assumé.
Encore une fois, je rappelle quand même que le paritarisme a bien fonctionné en termes de gestion, plus d'ailleurs que ce qui est géré directement par l'État, même si il y a aussi le financement de la sécurité sociale qui fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale et sur proposition du gouvernement. Je suis embêtée sur toutes ces attaques systématiques sur le paritarisme et tout ce qui est corps intermédiaire, parce que les corps intermédiaires, on en a besoin. Je trouve ça assez étonnant que le gouvernement n'ait pas compris, après avoir eu les gilets jaunes, les montées de boucliers et les réactions extrêmement violentes qu'il y a eu au moment de la vaccination. Tout ça, en fait, ça existe parce que justement, il n'y a plus de corps intermédiaire, plus de structures qui accompagnent les gens et qui permettent de donner, alors appelons ça éducation populaire si vous voulez, ou autrement, mais en tout cas, qui donnent une vision alternative, qui alimente la démocratie et qui permettent d'éviter de se retrouver dans cette situation qui est mauvaise pour tout le monde, de l'individu tout seul face à un État qui, en plus, en France, est omniprésent.
Oui,
je ne comprends pas qu'il n'ait pas appris de ses erreurs. Je trouve ça un petit peu dommage
pour
des personnes à cette responsabilité-là.
D'abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit quand même, Denis Michel, parce que je vois même la tentative de nationaliser.
Mais là, c'est une volonté Agirc-Arrco. Alors Agirc-Arrco, ça n'a pas été vraiment assumé, mais sur l'UNEDIC, c'est.
Oui, mais très sincèrement, je vois pas où l'État a fait la démonstration de sa vertu de gestion et sa vertu budgétaire pour pouvoir dire on va faire mieux. Non, je suis pas du tout certain que ce soit un combat très intéressant.
Puis je vais te dire quand même, parce que sur BFM,
allons-y,
de temps en temps,
allons-y.
Les syndicats sont importants pour la vie sociale et en entreprise.
Je suis totalement convaincu, et ça pourrait nous ramener aussi au modèle scandinave.
Je parlais des syndicats salariés.
Le problème, c'est qu'on a un personnel syndical qui, intellectuellement, pour certains d'entre eux, est resté un peu au XXe siècle. Mais je pense que la vie,
voire au XIXe,
syndicale et le dialogue social.
Moi qui les fréquente tous les jours, je ne sais pas qui est plus resté sur le XXe siècle entre des schémas de gestion d'entreprise d'un côté et de l'autre. Mais globalement, faut pas tomber dans la caricature. La plupart des accords sont signés.
C'est vrai. En entreprise, c'est vrai.
Et par contre, on pourrait, ça c'est vrai, mettre un peu plus de démocratie en entreprise. Je pense que ce serait important pour tout le monde parce que je sais que ça n'est pas forcément ce qui se dit le plus, mais oui, les salariés qui sont sur le terrain ont de bonnes idées pour améliorer, pas que les conditions de travail, mais la production, la qualité de la production, les produits de façon générale. Et c'est dommage de ne pas plus les écouter, d'où l'importance aussi des syndicats.
Les pays qui ont un système social assez bien organisé, notamment au nord de l'Europe, vous êtes obligés d'être syndiqués. pour avoir accès à vos droits.
Pardon, plus on est syndiqué et plus il y a une certaine forme de modération dans les syndicats, moins il y a de syndicalistes et plus il n'y a que des extrêmes dans les syndicats. Et c'est simplement parce que sur ces antennes, j'ai eu l'occasion de dialoguer avec un représentant de la CGT qui expliquait que verser des dividendes, c'est du vol, qu'on est par moment un tout petit peu réticent à ouvrir le dialogue social ou la démocratie sociale à certains syndicats qui refusent tout simplement le mode de fonctionnement de l'économie. Mais c'est dans vrai, l'absolu, mais
pourquoi ne pas mettre sur la table la discussion sur le fonctionnement du modèle de l'économie ? Ce n'est pas une vérité absolue révélée sur la place des dividendes de la rémunération du capital par rapport à la prise de risque. Il y a des choses intéressantes à dire. Oui, il y a une prise de risque, mais on risque son argent. Aujourd'hui, on sait, il y a toute une série qui est sortie dans le monde, il y a 2 morts par jour dans le travail. Est-ce que la prise de risque du salarié n'est pas équivalente, voire supérieure à celle qui met uniquement de l'argent? Moi, j'ai évidemment une idée que vous devinez, mais la question, c'est pas ce que je pense moi ou même ce que vous pensez vous, malgré tout le reste de suspect que j'ai pour eux, c'est posons le sujet sur la table. Il n'y a pas de tabou.
On marque une pause dans l'entreprise.
On marque une pause, on se retrouve dans un instant. J'évoquerai avec vous le grand concours Lépine fiscale est ouvert. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, dit Bruno Le Maire, et pourtant, il y a plein d'idées qui circulent. À tout de suite.